Avant de commencer, j'aimerais donner deux indications techniques. Comme d'habitude, enfin comme maintenant depuis quelques années, la première heure sera consacrée au cours, je dirais dans son aspect le plus textuel, et la deuxième heure sera plutôt construite à partir d'un certain nombre d'œuvres que je commenterai, et évidemment elles sont en relation avec la première partie du cours. Alors, il y a maintenant une raison qui n'est pas seulement de commodité, mais une raison technique, c'est que la première heure sera téléchargeable, donc consultable sur le net, et que, pour les raisons que vous savez sans doute, il n'est pas possible d'utiliser des projections à partir d'œuvres d'art qui appartiennent à des collections publiques, sans passer par tout un système compliqué et surtout coûteux. Donc pour éviter cette difficulté, seule la première heure sera téléchargeable et la deuxième ne le sera pas. Et là, nous pourrons nous délecter d'œuvres d'art, encore que même dans une projection, dans un cours comme celui-ci, normalement, je ne devrais pas vous montrer de tableaux, par exemple, appartenant au musée du Louvre ou au musée, à la National Gallery. Bien, donc ça c'était des indications techniques pour que vous sachiez un petit peu comment les choses seront construites. Alors, l'intitulé du cours de cette année a pu vous paraître étrange. Regardez l'art, virgule, en écrire l'histoire. Je voudrais donc commencer par justifier cet intitulé. Il s'agira de comprendre pourquoi, comment on a senti la nécessité d'écrire sur l'art. Non pas forcément une histoire de l'art, ça peut être parfois de la critique d'art, des commentaires sur l'art, mais en tout cas, cette nécessité s'est fait sentir à différents moments de l'histoire. Lorsque je parle d'histoire de l'art, je ne parle pas d'une histoire, évidemment, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Elle a pris différentes formes, parfois balbutiantes, parfois très éloignées de ce que nous nommons ainsi aujourd'hui, depuis sa lente genèse encore au cours du Moyen Âge, enfin en tout cas au cours du XIVe siècle, comme je vais le montrer. Et ces formes n'ont pas évidemment été identifiées par leurs auteurs même comme étant une ou des histoires de l'art. Cette expression est évidemment tout à fait récente. Mais nous examinons aujourd'hui rétrospectivement ces textes, ces tentatives, et nous voyons là, nous, historiens de l'art, les germes de cette discipline. L'histoire de l'art est née dans une histoire plus générale. Je crois que ça, c'est une première observation qu'il faut faire et qu'il faut garder à l'esprit. C'est une histoire plus générale, mais c'est aussi, on pourrait dire, une histoire universelle. Les débuts de l'histoire sont dans la pensée, dans la conception d'une histoire universelle. En même temps, lorsqu'elle est née en tant que telle, l'histoire de l'art n'a jamais tout à fait rompu ses liens avec cette histoire générale. Les historiens eux-mêmes ont la plupart du temps considéré que l'histoire de l'art était une discipline annexe ou une discipline ancillaire de l'histoire. Et je voudrais rappeler un texte fameux, l'introduction aux études historiques, qui a été publié par deux ténors de l'histoire positiviste à la fin du XIXe siècle, très exactement en 1898. Ces deux auteurs étaient Charles-Victor Langlois et Charles Seignobos. Et dans leur développement sur la nécessité des études historiques, ils n'évoquent l'art que entièrement subsumé à l'archéologie. C'est-à-dire que l'art n'existe pas en tant que tel. Il y a une discipline annexe de l'histoire qui est, j'allais dire, qui est noble, c'est l'archéologie, et l'art lui-même n'a qu'une place au sein de l'archéologie. Donc l'étude des documents visuels pour Seignobos et Langlois n'a pas de valeur spécifique, n'a pas de méthode propre, à la différence de l'archéologie. Et pourtant, nous sommes en 1898, à un moment où l'histoire de l'art a commencé à se développer, déjà en Allemagne depuis longtemps, mais en France également, et elle va bientôt accéder à l'enseignement au sein même de l'université. Je veux aussi insister sur la différence essentielle qui singularise l'histoire de l'art, à savoir qu'elle s'occupe d'objets, de témoignages non verbaux du passé, même d'un passé lointain. Et que par conséquent, ce type de réalia ou d'artefact suppose une expérience visuelle. Une expérience visuelle, regarder l'art précisément, qui est pour nous aujourd'hui évidente, mais qui ne l'était pas du tout pour les hommes des 14e, 15e, 16e, je dirais même jusqu'au 18e siècle, jusqu'à Winckelmann. En effet, ces hommes, reprenant d'ailleurs en cela l'attitude de leurs modèles antiques, ces hommes pouvaient parler d'œuvres d'art qu'ils n'avaient jamais vues, comme s'ils les avaient vues. Et pour cela, ils adoptaient un vocabulaire, des formulations empruntées à toute une tradition littéraire et historique, en particulier à une tradition rhétorique qui remontait à l'Antiquité. On avait appris chez les anciens, par exemple chez Pline dans son Histoire naturelle, ou chez Cicéron, comment parler d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art dont on savait qu'elle existait quelque part, dont on savait en gros quel était le thème, mais que l'on n'avait jamais vu de ses propres yeux. Donc l'expérience visuelle n'est pas du tout à l'origine associée à l'écriture d'une histoire. Alors, le cours de cette année sera consacré notamment à l'étude de deux types de documents. D'une part, à des textes, ces textes fondateurs de notre discipline. Il s'agira de savoir à partir de quelles prémices, quand, comment s'est construit un discours sur l'histoire de l'art et quels objectifs ce discours s'est assigné. Ensuite, il s'agira de savoir est-ce que ces textes que nous lirons ensemble, que je commenterai pour vous, sont de nature historique et peuvent être séparés, distingués d'une tradition critique, puisque très tôt, les hommes qui ont parlé des œuvres d'art ont également émis des avis critiques sur ces œuvres. Sont-elles belles ? Sont-elles conformes à des canons, etc. Alors, le deuxième type de documents que nous aurons à analyser sont évidemment les œuvres elles-mêmes, à mettre en relation avec ces textes, et plus particulièrement par la médiation de description. Comment s'est-on mis à parler des œuvres ? Eh bien, c'est d'abord en les décrivant, et on les décrit très souvent sans les avoir vues. J'insiste beaucoup sur cette notion qui peut paraître totalement absurde, mais non, c'est le cas. Donc on décrit des œuvres qu'on n'a pas vues en empruntant à l'Antiquité ces conventions, ces topoi, toutes ces manières de parler des œuvres que les anciens avaient élaborées. Alors, en même temps, je vous dis que nous allons commenter des textes. Bien sûr, il existe déjà des ouvrages, en français même, mais surtout en allemand, en anglais, en italien, qui présentent des anthologies de textes sur l'art, tous plus ou moins sur le modèle de ce qu'avait écrit un historien de l'art viennois, Julius von Schlosser, en 1924, dans un livre qui s'appelait « Kunstliteratur », littéralement traduit « littérature artistique ». C'est le modèle de toutes ces anthologies, de tous ces recueils de textes, de sources relatifs à l'art. Ce n'est pas ce que je voudrais faire ici. Il s'agit plutôt de mener une sorte d'enquête sur les relations qu'entretiennent les discours sur l'art, donc de nature historiographique ou critique, avec la théorie de l'histoire, ou à partir du XVIIIe siècle, de la philosophie de l'histoire. En fait, ce qui me paraît tout à fait important et qui n'a pas été véritablement étudié jusqu'ici, c'est qu'on traite toujours l'histoire de l'art, encore une fois, comme une discipline à part. Les historiens de l'art la traitent comme une discipline à part. Les historiens traitent l'histoire comme une discipline à part. Et en fait, on ne cherche pas à comprendre s'il y a des liens, non pas d'inféodation, comme on semble le dire quand on est historien pour l'histoire de l'art, mais des liens organiques entre les deux. Qu'est-ce qui, au fond, a pu déterminer un changement fondamental dans le développement de l'histoire de l'art venant de l'histoire? Et est-ce que l'histoire de l'art n'a pas elle-même eu des effets considérables sur la pensée de l'histoire? C'est le cas, et nous le verrons. Alors, si l'histoire de l'art est considérée par la plupart des historiens comme une discipline annexe de l'histoire, donc ni les historiens de l'art n'ont vraiment étudié les liens véritables qui unissent les deux champs disciplinaires. Alors, l'histoire de l'art, nous le verrons, par exemple, avec Giorgio Vasari ou avec Giulio Mancini, est née sous la plume de personnalités souvent extrêmement différentes. Les unes étaient des artistes, les autres des amateurs, tout simplement, et les troisièmes des historiens confirmés. Il est bien évident que ces trois pratiques ne portent pas sur l'art le même regard. Dans le cas des artistes écrivant sur l'art, ou des amateurs écrivant sur l'art, on parlera plutôt, on sera tenté de parler plutôt de critique d'art, comme le font les Italiens, qui nomment critica d'arte ce que nous appelons histoire de l'art. Ensuite, autre point très important, le jugement critique sur l'art, qui va être parfois, qu'on aura parfois tendance à confondre avec le discours historique sur l'art. Ce jugement critique a exigé et permis l'élaboration d'un langage qui n'a pas peu contribué à la formation de l'histoire de l'art. Il y a tout un vocabulaire que, par exemple, Vasari va introduire dans ses biographies pour caractériser à la fois les artistes et leur production, et même leur pratique artistique. On pourrait donc dire que l'histoire de l'art est née par suite d'une double sissiparité, si je peux prendre cette métaphore, se détachant progressivement de la critique d'art, en conservant les outils d'analyse et le vocabulaire de la critique d'art, et se détachant de l'histoire en préservant une part de ses méthodes. Par exemple, l'histoire de l'art a évidemment emprunté à l'histoire la périodisation. Enfin, une autre perspective ne doit pas être oubliée, elle est même, je dirais, fondamentale. Nous envisageons aujourd'hui l'art lui-même comme une composante absolument fondamentale de la culture. Et nous considérons qu'il a toujours occupé la même place dans le champ de la culture, c'est-à-dire une place importante, une place majeure même. Or, les œuvres d'art visuel, en particulier, occupaient une place tout à fait secondaire, pour ne pas dire mineure, par exemple, à la Renaissance, par rapport à la philologie ou à la philosophie. Je force à peine le trait. L'étude philologique des auteurs anciens est la plus ancienne des sciences humaines. Il faut le rappeler. On a vraiment considéré au XVIe siècle que ce qui devait fonder la relation entre ce temps et l'Antiquité, c'était l'étude des textes. Donc l'étude philologique des auteurs anciens est la plus ancienne des sciences humaines. Elle a servi de modèle aux plus jeunes des sciences. L'intérêt manifesté par quelques esprits assez rares pour les artistes, encore beaucoup plus rarement pour les œuvres d'art, constitue en réalité un épiphénomène dans le mouvement des idées au cours des XIVe, XVe et XVIe siècle. Là où nous mettons l'accent sur des œuvres, ou parfois sur des noms d'artistes, on était beaucoup plus intéressé par ce qui, aujourd'hui, nous paraît devenir, on peut le regretter d'ailleurs, mineur, comme la philologie. La philologie paraît aujourd'hui une discipline relativement dépassée, même les étudiants en lettres dans les universités ne font de la philologie que d'une manière, je dirais d'une manière mineure par rapport à, aux autres aspects des études littéraires. Il faut aussi, et je terminerai là cette introduction, adopter une position relativiste lorsqu'on prétend porter une appréciation sur l'existence et la pertinence d'une soi-disant histoire de l'art. Il faut essayer d'opérer une sorte, je dirais presque, de décentrement par rapport à cette discipline pour voir à quel point elle a été d'abord d'une gestation extrêmement lente et difficile. Voilà. Alors, nous allons venir maintenant à la conception médiévale du temps et voir comment cette conception médiévale du temps, sur laquelle je ne m'étendrai pas, va connaître tout à coup un temps d'arrêt, une rupture. Rupture imputable à l'un des plus grands esprits de ce Moyen-Âge finissant, qui va être considéré d'ailleurs comme un des premiers grands humanistes ou un des proto-humanistes, il s'agit de Pétrarque. Qu'en est-il de cette chronosophie, comme l'appelle Pomian ? La chronosophie, c'est quoi ? C'est une action que prétendent exercer les hommes sur le passé ou sur le futur. Donc la chronosophie chrétienne pourrait se résumer, mais là c'est vrai que je l'appauvris considérablement, pourrait se résumer à une division du temps en deux périodes. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais finalement, ça revient à une division en deux périodes. Avant la naissance du Christ, donc la période de la loi ou la période de la synagogue, et puis après la naissance du Christ, la période de la grâce et de l'Église. Ce schéma est plus ou moins adopté par tous les historiens du Moyen-Âge. Les notions adoptées par les humanistes pour définir la rupture introduite par leur propre temps sont des notions relativement variées. On croit toujours que c'est le terme de Renaissance, mais ce n'est pas le seul. Il y a évidemment la Renaissance, mais il y a aussi la lumière. L'idée de lumière, la métaphore lumineuse opposée aux ténèbres. En réalité, c'est cette métaphore qui apparaît en premier lieu pour désigner une période nouvelle par rapport au passé. Le terme rinascere, va apparaître pour la première fois sous la plume de Lorenzo Ghiberti, donc au XVe siècle, lorsqu'il parle de l'art antique qui se relève après une période de décadence. Autrement dit, Ghiberti va utiliser cette expression désignant l'art comme manifestation du nouveau ou d'un renouveau. La métaphore de la lumière par rapport aux ténèbres, nous allons l'examiner plus en détail avec Pétrarque. Pétrarque qui est, par sa place historique déjà, quelqu'un qui occupe une grande partie du XIVe siècle, au fond le deuxième quart et troisième quart du XIVe siècle, et qui est cette personnalité extrêmement complexe, à la fois un penseur, un philosophe, un philologue, un des premiers grands philologues, pourrait-on dire, et aussi un poète immense. Qu'est-ce qui, finalement, caractérise une grande partie des entreprises littéraires et philosophiques de Pétrarque ? C'est le refus du temps présent. Premier constat qu'il faut faire. Il refuse le temps présent, il se sent, au fond, très mal à l'aise. Il a conscience de vivre malgré lui, dans une triste époque, et il reconnaît dans ses textes préférés qu'il aurait préféré naître plus tôt ou plus tard. Donc une sorte de refus, de, même presque de déni du temps présent. Alors cette idée de la lumière qui va caractériser le retour à quelque chose de très ancien, en l'occurrence à l'Antiquité, elle est présente dans d'autres textes. Par exemple, Boccace dit à propos de Giotto qu'il est responsable de la manière dont l'art de la peinture est retourné à la lumière, ritornata in luce. Et Villani, dont je vous parlerai encore, dit à propos de Dante qu'il a ramené la poésie à la lumière. Quand on regarde les textes de Pétrarque, qui emploie cette métaphore lumineuse, on s'aperçoit qu'en fait, il renverse la métaphore lumineuse telle qu'elle était employée par les auteurs du Moyen-Âge. Les auteurs du Moyen-Âge parlaient de la lumière et des ténèbres en opposant le Christ et le paganisme. La lumière du Christ venant dissoudre les ténèbres. Et cette métaphore va être reprise par Pétrarque, mais en lui faisant abandonner une signification purement religieuse. Et on voit bien comment Boccace, Villani ou Ghiberti opposent la renaissance des arts, c'est-à-dire Dante, Giotto et Pétrarque lui-même, à l'époque qui les précède immédiatement et qui est celle des ténèbres. On peut donc dire que cette métaphore est strictement renversée en son contraire. Ce qui fait partie de cette lumière retrouvée, c'est le travail de l'humaniste qui consiste, par exemple, à retrouver les textes originaux des auteurs latins et d'écrire comme Cicéron. Voilà une façon de retourner à la lumière. Il attend de ce travail sur les textes et la langue qu'il aide à retrouver le Tullianus stylus, c'est-à-dire le style cicéronien, qui doit se substituer à la culture du monachisme médiéval, en particulier ce que nous rappelle Fumaroli dans son livre « L'âge de l'éloquence ». Pétrarque regrette, par exemple, que Cicéron soit mort, je cite, « peu avant la fin des ténèbres et de la nuit des erreurs, et avant la naissance de la lumière ». Donc il situe bien la place de Cicéron, qui est un de ses grands modèles, dans cet entre-deux auquel il fera si souvent référence. Mais en même temps, il se plaît à rappeler qu'il existait des hommes exceptionnels dans ces périodes de ténèbres. Donc ces ténèbres laissent quand même émerger quelques caractères, quelques œuvres exceptionnelles qu'il ne nie pas, qu'il n'enfuit pas d'une manière absolue dans la nuit. On peut dire que cette référence à Cicéron que je viens de rappeler est une référence à laquelle j'aurai souvent recours. Cicéron est un des grands modèles de tous les discours sur l'art qui se sont peu à peu constitués autour des 14e, 15e et 16e siècles. Et on peut dire aussi que Pétrarque est le véritable inventeur de Cicéron, inventeur dans le sens de découvreur de Cicéron. Par exemple, il écrit dans une lettre à Boccace comment il faut imiter. Il recommande ainsi l'imitation des anciens, et l'imitation va être un point sur lequel je vais beaucoup insister, l'imitation des anciens, comment elle doit se faire, à la fois en sauvant sa propre identité et même sa propre foi, parce que Pétrarque est un auteur chrétien, un philosophe chrétien, donc sauver sa foi, mais en même temps imiter, et imiter un auteur païen, bien sûr. C'est là un enjeu extrêmement compliqué et sur lequel Pétrarque insiste beaucoup. Voici Pétrarque dans une foule que j'aurai à commenter ultérieurement. Et voici, alors, les textes que je vais vous montrer poseront peut-être un petit problème technique à tous les toutes les personnes présentes dans le fond de la salle. J'essaierai de faire mieux la prochaine fois et d'adopter des caractères un peu plus, d'un corps un peu plus grand et peut-être avec un interligne un peu plus grand. Je vais lire ces textes. Voici ce que dit Pétrarque à Boccace. L'imitateur doit éviter que la ressemblance de son texte à celui de son modèle ne soit une identité, du même ordre que la ressemblance de l'objet à son image dans le miroir, au point que le mérite de l'artiste dépende du degré de reproduction dont il est capable. La ressemblance doit être analogue à celle d'un fils à son père, qui s'accommode souvent d'une grande différence physique et qui tient à rien, à un air, comme disent les peintres d'aujourd'hui. Aussitôt qu'on voit le fils, le père revient en mémoire. La comparaison entre les deux les montre alors tout différents, et pourtant, un mystérieux je-ne-sais-quoi maintient le rapprochement. Dans tout ce que nous écrivons à la ressemblance d'un modèle, il faut introduire beaucoup de différences et laisser voiler ce qui subsiste de ressemblance, si bien qu'on ne puisse le remarquer, sinon à tête reposée, et plutôt comme un soupçon que comme une certitude. Il faut donc s'inspirer d'une nature créatrice et des qualités de son style et ne pas reprendre ses propres termes. Dans le premier cas, la ressemblance reste cachée. Dans le second, elle ressort. Dans le premier cas, on a affaire à un poète. Dans le second, à un singe. Nous avons ici une très belle description de ce qu'est l'imitation créatrice. Cette imitation créatrice qui, selon Pétrarque, est une confrontation, finalement, entre deux ingenia. Les ingenia pourraient être caractérisés comme des dispositions naturelles, des tempéraments de l'homme. L'un en acte, l'autre en puissance, d'où naît la conscience de sa propre identité d'artiste. J'y reviendrai, mais je voudrais insister ici sur la notion d'imitation. L'imitation n'est pas du tout ce que nous mettons aujourd'hui derrière ce mot. Si nous désignons aujourd'hui quelqu'un comme un imitateur, c'est quelqu'un qui est plus proche du singe, en effet, qui singe des attitudes, qui singe des modèles que nous ne laisserions à ce terme une signification positive. Or, pour un homme comme Pétrarque, l'imitation est quelque chose de fondamentalement positif. Ça ne peut dévier vers la singerie, comme il le dit lui-même, que dans certains cas. Mais imiter quelqu'un, c'est adopter son modèle, son type d'écriture, le type de métaphore qu'il utilise, et en même temps les transformer suffisamment, à la fois pour se les approprier, bien entendu, mais aussi pour marquer une différence, un écart avec le modèle. L'imitation, c'est une relation à des modèles, c'est-à-dire une relation à un passé. Et ce passé est antique. Ce passé, c'est en particulier le passé cicéronien. Donc l'imitation est, par définition, cette attitude, cet ensemble de procédures que le poète décrit comme pouvant nous mettre directement en relation avec les modèles antiques, comme nous mettant en même temps dans une situation de familiarité et d'étrangeté toujours nécessaire. Entre 1337 et 1342-43, une période très importante dans la vie de Pétrarque, se place un événement majeur. C'est son couronnement comme poeta laureatus le 8 avril 1341, très exactement, sur le Capitole, à Rome. Il est couronné par les mains d'un sénateur romain. Puis, il prend la couronne de laurier qu'on pose sur sa tête et il va la déposer sur la tombe de Saint-Pierre. Nous avons dans ce geste, renouant avec une tradition antique, et débouchant sur un hommage qui est un acte de dévotion, d'une certaine façon, au fond, toute la complexité et, en même temps, la singularité de la place de Pétrarque. Cette pratique de couronner de laurier le poète n'avait pas été abandonnée depuis l'Antiquité, comme depuis le 1er siècle, comme le croyait Pétrarque, ou comme il aimait le penser. Mais un certain Antonio Musato avait été couronné de laurier à Padoue en 1315. Ce geste qui renoue avec une tradition antique est pour lui d'une grande importance. Voici ce qu'il dit, Pétrarque. « Avec l'aide de Dieu, je renouvellerai dans la République retrouvée, la République romaine, retrouvée, une splendide coutume remontant à la jeunesse florissante de cette République. » Donc il a conscience de procéder à une sorte de résurrection d'une tradition antique. La mise en scène d'un événement comme celui-là, tel que Pétrarque l'a considéré et rapporté, marque vraiment l'entrée dans la Renaissance. On voit bien comment Pétrarque, à l'occasion de cet événement, est conscient de sa position historique. Le chancelier de Florence, Leonardo Bruni, dit que Pétrarque fut, je cite, « le premier à posséder le talent de reconnaître et de ramener à la lumière l'élégance antique du style, depuis oublié et même éteint. » Voilà, donc cet événement romain est quelque chose d'important dans les, je dirais, dans la, non seulement dans la biographie, bien entendu, Pétrarque, mais dans la manière dont il utilise cet événement pour marquer un changement d'époque. Encore que ce changement n'est possible à ses yeux que si, en effet, les hommes eux-mêmes font l'effort de renouer avec la tradition antique dans la ville de Rome. Le premier séjour qu'il a fait à Rome se place en 1337 et il est subjugué par le spectacle des ruines antiques dont il ne laisse aucune description et, au fond, aucune véritable impression poétique. Mais c'est à la suite de son deuxième voyage à Rome qu'il écrit que dorénavant, il voit l'histoire divisée en deux époques, l'antique et la moderne. La séparation entre les deux étant marquée par le triomphe du christianisme sur Rome. Et il considère que, tout comme autrefois le Christ a apporté la lumière de la foi dans les ténèbres dans lesquelles vivaient les païens, ainsi la lumière de la culture antique doit effacer les ténèbres de la barbarie médiévale. Alors, cette opposition est très intéressante parce que, premièrement, Pétrarque considère que lui-même est encore dans cette période de ténèbres. Bon, on n'en est pas sorti. Il n'a pas du tout la prétention que l'on en soit sorti. Mais en même temps, ce qui est très frappant, c'est que le début du christianisme, donc le début de l'âge chrétien dans l'Europe occidentale, est pour lui un moment fondateur, alors que l'époque qui suit est une période de ténèbres et de barbarie. Avec un de ses amis dominicains, lors de ce deuxième séjour à Rome, il s'arrête sur les lieux qui lui rappellent non pas le souvenir de la Rome chrétienne, de la Rome paléochrétienne, mais de la République romaine. Il déplore notamment que les Romains de son temps, du XIVe siècle, ne connaissent rien de la Rome antique. Et il dit qu'il peut douter que Rome ne ressusciterait si seulement elle commençait elle-même par se reconnaître. Donc il y a chez lui un constat, une sorte de désenchantement par lequel il considère qu'au fond, le retour à l'antique ne peut se faire que par la volonté des hommes eux-mêmes. Alors avec son ami, il grimpe sur les toits des thermes de Dioclétien parce que l'air y est plus pur, dit-il, c'est étrange, et plus silencieux, et il contemple le magnifique panorama. Lorsque nous longions les murs de la ville ruinée ou que nous nous arrêtions, les fragments des ruines s'étendaient sous nos yeux. Notre conversation portait souvent sur l'histoire, que nous nous partagions en sorte que toi, tu étais plus versé dans l'actuel et moi dans l'ancienne, donc l'histoire moderne et l'histoire antique. Et furent nommés anciens tous les événements qui eurent lieu avant que le nom du Christ ne soit célébré à Rome et honoré par les empereurs romains, modernes, ceux qui remontent à l'époque, qui va de ce moment-là jusqu'à nos jours. Donc vous voyez, une curieuse définition de l'époque moderne, qui est pour lui encore celle des ténèbres, l'époque moderne n'est pas encore, bien sûr, ce que nous appellerons la Renaissance, c'est la période de barbarie. Donc, antique ou anticus est la période qui précède la victoire du christianisme dans l'Empire romain, et novus, celle qui lui succède jusqu'à son propre temps, et je le répète, son propre temps appartient encore à la décadence. Il faut donc rénover l'Antiquité en unissant l'intériorité chrétienne à la grandeur laïque. Voilà le véritable programme, si je puis dire, intellectuel de Pétrarque. Alors, en adoptant cette division en deux périodes, il ne croit pas du tout à une division esthétique ou artistique, comme le fera Vasari. C'est une division historique. Et son intérêt le porte avant tout vers la genèse et la grandeur de la res publica romana. Alors, la résurrection de cette Rome serait possible, avons-nous dit, si les Romains de l'époque de Pétrarque le voulaient bien. Il s'agit donc idéalement de ressusciter la Rome ancienne. Il est aussi question, dans un autre contexte, non pas de lumière et de ténèbres, mais de résurrection. Alors, la résurrection de Rome, comme je viens de le dire, mais aussi au début du XIVe siècle, on découvre à Vérone un manuscrit du poète latin Catulle qui était quasiment ignoré pendant tout le Moyen-Âge. Et un poète écrit un poème sur ce poète ancien, Catulle, en décrivant son long exil de la ville de Vérone et comment, en 1375, il assiste à la résurrection du poète. Ces métaphores vont se multiplier peu à peu. Pétrarque lui-même établit les éditions critiques d'auteurs latins de Tite-Live. Par exemple, il retrouve les lettres à Atticus de Cicéron en 1345 à Vérone, et il écrit même une lettre fictive à Cicéron. Il établit une sorte de dialogue avec un auteur antique. Là encore, nous sommes dans la métaphore de la résurrection. Son intérêt pour les textes anciens va au-delà d'un intérêt philologique ou littéraire. Il s'intéresse aussi aux documents anciens pour en vérifier l'authenticité. Par exemple, en 1356, Charles IV lui soumet une charte dans laquelle Rodolphe de Habsbourg prétend que les Habsbourg détiendraient depuis Néron et César le titre d'archiduc. Pétrarque l'examine, l'expertise et déclare « c'est un faux manifeste ». Nous avons là un témoignage très important de l'expertise des documents anciens qui, nous le verrons à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle, va devenir le modèle de l'expertise en général et décider si un document historique, une archive, est authentique ou non, va relever d'un ensemble d'opérations qui seront assez proches, en tout cas considérées comme des modèles autour de 1600 de l'expertise des œuvres d'art. Alors, la vue des restes glorieux de Rome, qui sont l'image même de la vertu romaine pour Pétrarque, c'est elle, cette vision, qui induit ce découpage du temps, et aussi sa préférence pour une époque qui a vu la construction de la ville à l'opposé de l'époque qui a vu la destruction de la ville. Alors, il faut encore dire un mot, avant de quitter Pétrarque, de son œuvre historique la plus importante. Historique, j'entends bien, pas poétique, mais historique. De viris illustribus, donc des hommes illustres, est une œuvre dont le projet remonte entre 1337, date de son début, du début de son séjour dans le Vaucluse, et 1338. Il veut écrire sur les hommes illustres de tous les pays et de tous les temps. Il réunit les biographies des personnages réels et mythiques. Par exemple, dans une première version, il commence avec la vie d'Adam et termine par celle de César. Et puis, en 42, il entreprend un nouveau projet, qui est d'écrire la vie des hommes illustres entre Romulus, le premier roi, et Titus, au début de l'Empire. Cette fois, il s'intéresse exclusivement à l'Antiquité romaine. Alors, j'insiste sur Pétrarque biographe, pour une raison extrêmement simple, c'est que la première forme que va prendre réellement l'histoire de l'art, ce que nous appelons ainsi, va être la forme de biographie singulière. Et donc, l'idée même d'écrire la biographie d'hommes illustres correspond à un genre, au goût pour un genre, qui a une histoire déjà assez ancienne. Le genre de la biographie n'est pas né au Moyen-Âge pour parler d'hommes politiques, par exemple, de souverains. Il est né pour parler d'un type d'artiste tout à fait particulier, le troubadour. Le genre de la biographie a son origine dans les vidas des troubadours. De quoi s'agissait-il ? De notices biographiques au cours du XIIIe siècle, où l'on indiquait le pays d'origine, les principaux caractères et les qualités du chanteur en question, et ces notices précèdent en général les chansons dans les chansonniers de troubadours. Il y a des biographies un peu plus longues qui donnent parfois des précisions sur la vie du troubadour, par exemple, en mentionnant les mécènes qu'il a connus et les dames qu'il a aimées. Un des plus célèbres d'entre eux, Hugues de Saint-Cirq, dans la première moitié du XIIIe siècle, a écrit des vidas sur ses prédécesseurs et sur lui-même. Le récit de différentes biographies de troubadours se termine par une autobiographie. Ce que va faire Ghiberti dans ses commentari. Ces biographies de troubadours sont en réalité les premiers exemples d'une conception historique d'un objet artistique. Comment ? Objet artistique étant ici, évidemment, non pas un objet visuel, mais un moment de littérature. J'en viens maintenant à évoquer une deuxième figure importante dans cet examen auquel je me livre, des premiers textes liés à l'art ou qui vont donner, en tout cas, les bases, qui vont construire les bases à partir desquelles une histoire de l'art, même embryonnaire, va être possible. Cette deuxième personnalité, c'est Filippo Villani. Filippo Villani est un auteur du XIVe siècle, florentin, qui a continué la chronique de son oncle, Giovanni Villani, une chronique qui était une storia fiorentina, donc une histoire de Florence, qui est en réalité plus qu'une histoire de Florence, c'est une sorte de projet d'histoire universelle en 12 livres, depuis la chute de la tour de Babel jusqu'au temps des Villani. Alors, d'autres membres de la famille des Villani ont contribué à achever ce livre, ou à le poursuivre en tout cas. Alors, Filippo Villani est en réalité le premier à considérer, dans une histoire générale, que l'art est quelque chose de spécifique dans la vie politique d'une ville. En 1381-82, il écrit sur les bourgeois les plus célèbres de Florence, sa ville. De origine civitatis Florentia et eustem famosis civibus. Cet ouvrage va en réalité comporter les premières observations d'un auteur qui est encore obligé de se justifier de parler des artistes. Vous le verrez dans un instant dans son texte. Il y a d'autres livres sur Florence, déjà à la fin du XIVe et au XVe siècle. Par exemple, Leonardo Bruni, dont j'ai déjà parlé, qui écrit un éloge de sa ville, et aussi une défense des idéaux républicains, Historiae Florentini Populi. Alors Villani, lui aussi, déplore de vivre dans une époque décadente. Et pour lui, le modèle du renouveau est Dante, le poète Dante. On peut dire qu'à cette époque, lorsque Villani se met à écrire sur les hommes illustres, le thème a une résonance aristocratique. D'ailleurs, Giotto peint dans le palais del Podesta, pour la République de Florence, une allégorie de la commune en proie aux voleurs. Cette allégorie est aujourd'hui perdue. Il a peint aussi à Naples, pour René d'Anjou, un cycle d'hommes illustres, héros bibliques et antiques confondus. Cycle également perdu. À Padoue, il y a un palais, le Palazzo de Francesco da Carrara, où un cycle également de peinture est entièrement inspiré par Pétrarque, mais ne comporte que des empereurs romains. Alors, à côté des politiciens, des savants, des théologiens, des poètes qu'évoque Villani, un court passage, mais un passage tout de même, est réservé aux artistes. Dans ce chapitre, Villani raconte comment Cimabue aurait inventé le nouvel art de la peinture, suivi par Giotto. Les artistes, dit-il, méritent d'être mentionnés à côté des savants, à côté des arts libéraux, même s'ils ont acquis leur gloire autrement. Nous allons voir ce texte. Dans leur volume, les auteurs de l'Antiquité, qui ont remarquablement décrit les grandes actions, adjoignirent aux autres hommes célèbres les excellents peintres et sculpteurs d'images. En outre, si les anciens poètes inventèrent dans leurs fables la fiction de Prométhée fabriquant l'homme avec la boue de la terre, c'est parce qu'ils admiraient son talent et sa précision. Dans leur très grande prudence, les anciens estimèrent en effet, à ce que je suppose, que les imitateurs de la nature, qui entreprenaient de confectionner des effigies d'hommes en bronze et en pierre, ne pouvaient pas ne pas être dotés d'un très noble talent et d'une mémoire singulière, et ne pas avoir une grande docilité de leurs mains délicates. C'est pourquoi ils introduisirent dans leurs annales, parmi les hommes illustres, Zeuxis, Phidias, Praxitèle, Miron, Apelledocos, et d'autres que signalait une dextérité du même genre. Qu'à leur exemple, il me soit permis, moi aussi, n'en déplaise aux moqueurs, d'intercaler à cet endroit les exceptionnels peintres florentins qui ranimèrent un art exsangue et presque mort. Je souligne quand même l'expression « qu'il me soit permis, moi aussi, n'en déplaise aux moqueurs », c'est-à-dire que Villani s'attendait à être accueilli avec l'innovation de ce chapitre sur les artistes, d'une manière tout à fait négative. Parmi eux, Jean, auquel on donna le surnom de Cimabue, fut le premier, grâce à son talent et à sa dextérité, vous remarquez la récurrence de termes comme talent et dextérité, le vocabulaire n'est pas très varié, à faire revenir la peinture qui avait disparu et qui, pour ainsi dire, folâtrait et errait bien loin de la ressemblance avec la nature. Car c'est un fait qu'avant lui, pendant de nombreux siècles, la peinture grecque et latine gisait, terrassée sous le commandement grossier de l'inexpérience, comme le montrent les figures et les images qu'on voit au mur et sur les retables, ornées les églises de saints. Il parle évidemment ici de l'art byzantin. Après lui, la route, donc après Jean Cimabue, autrement dit, après lui, la route étant désormais aplanie pour des nouveautés, vint Giotto, qu'il faut non seulement, qu'il faut non seulement mettre sur un pied d'égalité avec les peintres de l'Antiquité pour la noblesse de son éclatante renommée, mais qu'il faut même placer au-dessus d'eux pour sa dextérité et son talent. Il restitua à la peinture sa dignité originelle et lui donna le plus grand renom. Je fais ici une parenthèse. Villani reprend ici un schéma d'explication que Pline, dans son Histoire naturelle, avait adopté à propos de deux peintres, Apollodore et Zeuxis, en disant que l'œuvre d'Apollodore ouvrait en quelque sorte les portes de l'art dans lesquelles Zeuxis a pu ensuite pénétrer. Les images que son outil a figurées s'accordent en effet si bien aux traits de la nature que le spectateur a l'impression qu'elles vivent et respirent, et même que ces exemplaria accomplissent leurs actes et leurs mouvements avec tant de justesse que, si on les regarde à une certaine distance, on voit qu'ils parlent, pleurent, se réjouissent et font d'autres actions au grand plaisir du spectateur qui loue le talent et la main de l'artiste. Nombreux sont ceux qui estiment, et ils sont certes loin de déraisonner, que les peintres n'ont pas un talent inférieur à ceux auxquels les arts libéraux ont conféré le rang de maître. L'application et l'enseignement permettent en effet à ceux-ci d'apprendre les règles de leur art, de leurs arts, dont la transmission est confiée à l'écriture, tandis que ceux-là n'ont que leur profond talent et leur mémoire tenace pour dégager ce qu'ils pressentent dans leur art. En dehors de l'art de la peinture, Giotto était un homme d'une grande sagesse qui avait expérience de nombreux autres arts. Ayant en outre une connaissance substantielle de l'histoire, il s'érigea en rival de la poésie, au point que des observateurs pénétrants ont évalué qu'il peignait ce que les poètes feignaient. Ce serait mieux que feignent. Il était de plus, comme il convenait à un homme très prévoyant, plus désireux de réputation que de richesse. Convoitant donc de se faire le plus grand nom possible, il parcourut toutes les villes célèbres d'Italie, y peignant dans des lieux bien en vue, notamment à Rome, où, dans la bâtisse qui précède la basilique de Saint-Pierre, avec la plus grande dextérité, il figura en mosaïque les apôtres en danger sur le navire, afin de faire sous les yeux du monde qui conflue vers la ville une démonstration éclatante de sa dextérité et de sa puissance, une allusion à la Navicella. En outre, en s'aidant du miroir, il se peignit lui-même aux côtés du poète Dante Alighieri, son contemporain, sur un mur de la chapelle du palais du Podestat, ce qui était une fresque évidemment perdue aujourd'hui. De cet homme vraiment digne d'éloge, comme d'une très abondante source pure, s'écoulèrent de très fertiles petits ruisseaux de peinture qui achevèrent de rendre précieuse et plaisante la peinture redevenue la rivale de la nature. Parmi eux, Maso, il s'agit de Maso di Banco, actif à Florence dans les années 1340 et dont on n'a rien conservé. Donc, parmi eux, Maso, le plus délicat de tous, peignit avec une vénusté incroyablement admirable. Stefano fut le singe de la nature. Il réussissait si bien à l'imiter que, dans les corps humains qu'il a figurés, les artères, les veines, les nerfs et les moindres traits sont assemblés avec propriété, comme dans les corps figurés par les médecins. Là aussi, il y a une allusion à un passage de Pline où, à propos d'un bronzier, Pythagoras, il dit de lui qu'il fut le premier à exprimer les veines et les nerfs du corps. Et je poursuis donc la lecture de Villani. Figuré par les médecins, au point qu'on a l'impression, comme en témoignait Giotto, qu'il ne manque à ces images que l'inspiration et l'expiration de l'air. Quant à Taddeo, il s'agit de Taddeo Gaddi, il peignit les édifices et les lieux avec tant de dextérité qu'il donnait l'impression d'être un second Dilocrate ou d'être Vitruve, l'auteur d'un traité d'architecture. Dénombrer les peintres, quasi innombrables, qui, à leur suite, ont ennobli cet art à Florence, serait une tâche revenant à qui, ayant plus de loisirs que nous, s'attarderait à traiter plus longuement cette matière. Fin du texte de Villani. Donc, au fond, il justifie son entreprise en se référant au modèle des anciens, qui ont ajouté eux aussi à leurs hommes illustres ceux qui sont très habiles de leurs mains, et ce qui peut choquer à l'époque de Villani. Il évoque donc plusieurs artistes, Cimabue, Giotto, Maso di Banco, Stefano et Taddeo Gaddi. Et au fond, à travers ce court texte, nous voyons comment l'art acquiert la dignité, non pas de faire l'objet d'une histoire autonome, mais de se trouver rattaché à une histoire plus générale. Nous sommes ici, au fond, entraînés dans une sorte de processus d'évolution qui, comme l'a dit un très bon connaisseur de cette période, Richard Krautheimer, un processus qui va montrer une évolution tout à fait irréversible et qui est une idée neuve pour les arts figurés, sans doute emprunté aux biographies des troubadours. Cette idée, elle vient de Pétrarque, de Boccace, jusqu'à Villani. L'idée selon laquelle l'art est en effet entraîné dans une histoire, dans un développement, et que ce développement lui-même ne s'arrêtera jamais et qu'on ne pourra jamais revenir non plus en arrière. La preuve, c'est que Cimabue n'a fait qu'ouvrir la voie à Giotto, mais que Giotto déjà l'a dépassé. Je vous remercie.